là?
Les Folies Bayon.
Ah non! Tu es là, monsieur.
Les Folies Bayon. Le concert à la scène. Les Folies Bayon. Ce sont des petits lindes hommes. Au lieu de sa folie. Ce vent d'une catastrophe. Ce destin réputé.
Avec moi.
Je veux pas être longtemps, parce que je voudrais pas déranger, hein. Ta femme est là, hein. Je vois qu'il y a quelqu'un avec elle à la cuisine, là. Alors, hey! Hein? La conversation est animée dans la cuisine?
Non, non, ça dérange pas, ma femme est seule à la cuisine, là.
Ben, hey! À qui est-ce qu'elle parle, là?
Ah, oh, c'est une manie qu'elle a comme ça, elle se parle à elle-même, tu
sais. Ben oui, mais pourquoi qu'elle parle si fort que ça?
Parce qu'elle est dure d'oreille.
Bonjour, ce matin, puis une bonne santé à nos amis de l'hôpital Saint-Charles, à Juliette.
L'embêtant.
Pensez très, très profonde.
L'embêtant avec les femmes, je pense qu'il est embêtant avec les femmes, c'est que quand on leur dit qu'on va les aimer toujours, elles comprennent qu'on va les aimer tout le temps.
Mais savez-vous, là, il m'est arrivé une chose gênante l'été dernier, moi. Un beau samedi du mois d'août.
Ben, on est toujours curieux. On est toujours curieux de savoir ce qui a pu vous arriver,
ben, j'étais à la plage, hein, puis je portais un amour de bikini que je venais de m'acheter.
Ben, voyons.
Imaginez que j'ai plongé, puis en sortant de l'eau, je me suis aperçu que j'avais perdu le haut de mon bikini.
Oh! Ben, j'allais donc vous êtes là!
Non, ça, je comprends!
J'imagine que vous êtes rentré dans l'eau immédiatement.
Et vous, ça n'est même pas venu à l'idée.
Hein?
Non, parce que j'avais trouvé l'eau tellement froide, ça ne me tentait pas de me ressauter.
Qu'est-ce que vous avez fait devant tout le monde?
Ben, comme toutes les jeunes femmes respectables, j'ai pris ma serviette, je m'en suis couvert la figure, puis j'ai couru vers mon hôtel.
mais plutôt que de sauver la face, c'est ça.
Attends.
Et vous n'êtes pas venu à l'idée, avec votre serviette, de sauver autre chose? Hein?
Savez-vous, Gérard, ça aussi, ça n'est pas venu à l'idée. Pas fine, c'est.
Après tout, qu'est-ce que c'est que tu penses que tu sens plein?
Ben, ça me fait penser un peu au type que j'ai vu au camp de nudistes cet été. Moi, ça.
Je ne pas, vous êtes encore allé là.
Estelle, le nudiste, c'est comme les pinottes.
Ouais.
Quand vous commencez ça, il faut voir le fond du gars.
Le fond là, du plat.
Elle est pas bonne, non?
La voix que t'es meilleure, Estelle. Mais qu'est-ce que ton type, là? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial?
Ben, j'arrive au camp, moi. Tout le monde, les hommes comme les femmes, portaient le costume réglementaire, tu sais, avec les accessoires bien en vue. Tous, excepté mon type.
Ah, mais qu'est-ce qu'il portait, lui?
Hein? Il portait rien comme les autres, excepté une grosse et longue barbe qui partait du menton. C'est un bon endroit pour partir. Et puis, la barbe, elle descendait jusqu'au bas des genoux.
Mon doudou! Il y avait sûrement quelque chose à cacher, lui.
Ben, il n'a pas pu faire autrement que de lui demander pourquoi. Il venait d'un camp de nudistes pour prendre du soleil à jubiler d'une barbe pareille. Il dit, si je porte une grande barbe comme ça, mon ami, c'est parce qu'à tout bout de champ, moi, là, il dit, pour que j'aille à l'extérieur du camp, au village voisin, chercher le café. Oh.
Ben, mon petit François, qu'est-ce qui t'arrive, hein? On arrive en retard à la classe. Puis François, pas seulement 5 minutes, mais 30 minutes de retard. Veux-tu m'expliquer pourquoi?
Hein? Je ne sais pas, je vais être obligé de préparer mon mot du langage.
Oh. François, quelle sorte de langage tu devrais avoir honte? Un mot semblable dans ta bouche. Ce que je vais faire, je vais te punir pour ça. Écoute-moi là. Prends ton livre des connaissances générales, puis va étudier ta leçon vite dans le fond de la classe, là. Puis ajoute pas un mot. Envoie vite, là, non.
Après 10 minutes. L'institutrice a pitié du petit garçon.
François, est-ce que tu sais ta leçon maintenant, là?
Je pense que oui, mademoiselle.
Bon, ben écoute, là, dis-moi, qui est l'avocat de la couronne, hein?
Je sais pas trop, mademoiselle. Oui. Tout ce que je sais, c'est qu'hier soir, l'avocat, il est parti avec ma mère. C'est pour ça qu'un matin, j'ai tout plus vite préparé mon mot de lunch.
Dans la salle d'attente de l'hôpital, un homme attend depuis 5 heures la venue de son premier enfant. Il fait les 100 pas, il s'arrache les cheveux, se frappe la tête contre les murs. En somme, il traverse un très dur moment. Enfin, l'infirmière toute souriante vient lui annoncer...
C'est une fille.
Ah, non! Une fille!
Une fille!
Je suis trop content!
Une fille!
Ah oui, ah oui, oui! Au moins, elle passera jamais par tout ce que je viens d'endurer.
Allez, vous coucher!
Je comprends! Il y a des gens qui sont drôles aujourd'hui, Trouvalo. Dans l'histoire précédente, c'était marqué « Mon mari », c'était pas marqué de nom. On ajoute des noms comme ça. C'est faux.
On va demander à Juliette.
Juliette, t'as pas l'air de bonne humeur, tiens.
Mange tes œufs, c'est toi, Jean-Gilles.
Et voyons, qu'est-ce que t'as pas l'habitude de me parler de même?
Dis-toi bien une chose, Jean-Gilles, c'est qu'à matin, c'est plus facile de ne pas parler.
T'es aussi bien de pas parler?
C'est aussi bien de pas parler.
Non, mais t'es encore fâché, toi, là.
Laisse faire.
T'es encore fâché parce qu'hier soir, je suis rentré avec un œil au beurre noir?
T'as fait remarquer, Jean-Jules, que quand t'es rentré à 3 heures le matin, t'avais pas d'œil au beurre noir.
Marie-Hélène, tu m'entends, là? Sors de la chambre immédiatement.
Non. Je ne veux pas sortir de ta chambre, non.
Marie-Hélène, je te le répète, va dans ta chambre. Sors d'ici, sors de la chambre.
Non, je ne veux pas, je ne veux pas.
Marie-Hélène, si tu ne sors pas de la chambre, tu n'auras pas de petit frère.
C'est le nom de ma fille, Marie-Hélène. Pensée extrêmement profonde.
L'impuissance est causée dans 99% des cas par une fermeture éclair coincée.
Oh, t'as pas bien. T'as pas l'air bien, mon détail.
Oh non, mon beau Lucien, ça va pas. Faudrait que je voie un psychiatre.
Alors, mais qu'est-ce que t'attends?
J'ai pas les moyens. Ça coûte trop cher.
Hey, va voir le docteur. C'est pas le cas. Son tarif, lui... C'est dépressif, tu sais. Quand tu retournes le voir, ben, ça coûte à moitié prix.
Ouais. Oh, ben, hey, oui, allez, ça tient.
Et pour la première fois, il fait arriver chez le psychiatre.
Bonjour, docteur, c'est encore moi.
Ah ben!
Tu vois donc, tu avais l'air soucieux, mon Albert.
Non, seulement pas, mon Dieu. Hé, je suis pas revenu de ce qui m'est arrivé il y a pas.
T'as pas eu d'accident?
Non. Mais tu sais, un de mes camarades de travail qui s'est tué dans un accident. Alors, hier soir, j'ai décidé d'aller rendre visite à sa veuve, tu sais.
Ah, est-ce que tu la connaissais, sa veuve?
Non. Alors, je me suis rendu à la maison où elle demeurait. Puis l'ascenseur, il y avait 5 hommes avec moi.
Hein?
Bah, je me suis dit, c'est sûrement là qu'ils vont, tu sais.
Ah oui.
Alors, en sortant de l'ascenseur, je les ai suivis. On est entrés dans un appartement. Il y avait déjà 3 hommes dessus, là.
C'est pas les sympathies qui lui manquaient, la veuve?
Ah, tu fais sûr, mon gars. Tous les 10 minutes, elle ouvrait une porte, puis un gars qui se tape en faisant rentrer un homme.
Tu sais que j'ai hâte que ton tour arrive, toi?
Ben, moi aussi, j'avais hâte. Ça va pas s'y m'attendait. Que l'autre, tu sais qu'elle ouvre la porte, elle m'appelle. Je rentre dans une chambre noire, puis en moins de temps qu'il en faut pour le dire, j'étais tout déshabillé, puis whoop dans le bed.
Ah?
Ouais, monsieur.
Pas possible.
Hey, je n'ai vécu, je le sais. En tout cas, j'en passe des bouts. C'est d'imagination. Tu peux comprendre ce qui s'est passé, hein? Quand tout a été fini, là, elle m'a dit de partir, elle est venue me reconduire à...
Tu as rien dit?
Tu vois ce que je dis? T'as complètement bouleversé, moi. Tout ce que j'ai trouvé à dire, moi, là, c'est...
C'est quoi?
Ben, j'ai dit comme ça, tout détendu, tu sais. J'ai dit, j'espère qu'on aura au moins l'occasion de se rencontrer dans des circonstances moins tragiques.
Un petit chat se présente devant le directeur de l'information du journal La Presse, et le petit chat lui dit,
Je voudrais t'engager comme journaliste. Hein?
Comme journaliste? Et dis-moi donc, quel genre de nouvelles que tu veux couvrir?
Les chiens écrasés.
Ouais, Gérard, connaissez-vous la vie des poissons?
Je ne peux pas dire que c'est ma plus grande préoccupation.
Non, je comprends, mais seriez-vous intéressé à savoir comment naissent les poissons?
J'ai une petite idée. C'est pas si bon.
Je suis certaine que vous faites votre idée. Gérard, la femelle pond des œufs dans l'eau.
J'espère.
Puis ensuite, là, le mâle arrive, il les féconde, ces œufs-là.
C'est pas beau, ça? Il n'y a aucun... Aucun dit wawa. Aucun contact sexuel chez les poissons.
Absolument pas.
Ah, ben, c'est peut-être. Êtes-vous capable de me dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça vient faire une conversation quand quelqu'un dit « Ce gars-là, il est heureux comme un poisson dans l'eau? »
Un jour, Dieu créa la France et contemplant son œuvre, il se dit...
Je me suis vraiment surpassé. Quel pays j'ai fait là. Tout est merveilleux. À bien y penser, cela est injuste pour le reste de la terre.
Et pour établir un certain équilibre, Dieu créa les Français. Pascal, mon avis, là, ça va pas tant, ça.
Oh,
il a ralenti, c'est bien effrayant. Il n'y a pas quelque chose à lui donner pour raviver sa vigueur d'antan, là, sa jeunesse d'autrefois, hein?
Peu, madame, mais il faudra vous en subir les conséquences.
Ouais, faites-vous-en pas pour ça, docteur. Pas assez longtemps que j'ai rien subi. Envoyez-donc.
Voici des petites cellules. Une avant le souper, mais seulement une avant le souper.
Seulement. Oui. Ah, merci, docteur. Je vous dis que mon mari va souper de bonheur à soir.
Et madame prépara son souper, la pilule à la main. Soudain, elle se dit, ouais. D'un ton agressif.
Il est bon pour une, lui, il est bien bon pour deux, hein? Ça va peut-être bien faire et faire rien qu'une fois, aussi d'en profiter pendant que ça passe. Moi, puis j'y pense, pourquoi pas trois, hein? Il n'en mourra pas. De toute façon, si ça y arrive, ben... Ça sera pas pire qu'avant. Ouais, ben, t'es pas au courant, mon mari, mais à soir, c'est ta fête. Trois pilules, tu sais.
Et monsieur avala trois pilules sans se douter de rien. Il n'était pas 10 heures que monsieur monta se coucher. Lorsque madame entra dans la chambre, son mari dormait déjà. Elle essaya de le réveiller de toutes les façons, rien à faire, il dormait comme un enfant de cœur. À très bonne heure, le lendemain matin, madame était hors du lit et hors d'elle-même. Regardant son mari dormir, elle lui administra une de ses claques sur la partie arrière de son individu en lui criant
« Peux-tu au moins te lever pour le déjeuner? Hein? »
« Ok, je vais me lever pour le déjeuner, mais je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Oh! »
Un flotteur qui entre par hasard dans une assemblée politique. Le candidat explique ce que c'est que le socialisme.
Mesdames et messieurs, lorsque dans un pays, il y a 100 personnes seulement qui mangent à leur faim, c'est la tyrannie. Quand il y a la moitié du peuple qui mange à sa faim, c'est la démocratie. Mais lorsque dans un pays, tout le monde mange à sa faim, alors là, c'est le socialisme.
Notre clochard est branlé par cette affirmation, s'en retourne dans son quartier. Et puis là, il réunit tous ses amis, ceux qui vivent comme lui. Il leur dit avec passion.
Oui. Oui, mes vieux amis. Oui. Vous le dis, moi. J'aurai seulement une centaine à fouiller dans les poubelles. C'est la tyrannie. D'accord. Si y a la moitié de nous autres qui fouillent dans les poubelles, ça, c'est la démocratie. Et si un jour nous en arrivons tous à fouiller dans les poubelles, alors là, ça va être le socialisme.
La parlante de femme, Jean-Maurice, j'ai rencontré hier.
Ah ben, elle ne m'a pas dit qu'elle t'avait vu. Ça, elle m'a bien dit qu'elle t'avait vu, toi.
Ça fait. Bien évident qu'elle m'a vu, ma femme, hier. C'est normal, ça?
Pas le contraire, non plus. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'elle m'a raconté. Non, inquiète pas. Elle m'a rien dit qu'il fallait pas que je sache. Non. Elle m'a tout simplement parlé d'un accouchement auquel elle avait assisté.
Ah, qu'est-ce qu'il y avait de normal?
Le petit bébé. Il est arrivé au monde en rien. Le médecin, il a eu de la difficulté à mettre au monde tellement le petit bébé, il était fait du drire, je crois.
C'est la première fois que j'entends une chose semblable.
Ben,
que la femme t'a conté ça?
Ben oui, le médecin en venait pas. Tu peux vu, il riait sans arrêt, mon bien, vrai funny, tu sais. Alors, le médecin, il a donné une coupe de tape sur les fesses, et tu peux vu, il riait encore de plus belle. Et là que le médecin s'est aperçu que le petit bébé, il tenait une de ses mains complètement fermée, jup.
Ben, j'imagine qu'il a dû lui ouvrir la main.
Ben oui, il pensait que quelque chose le s'appuyait, mais non, mon Dieu, c'est parce que le petit bébé, le petit bonjour, il avait une pénine dans le creux de la main.
Par un beau matin d'automne, deux petites chèvres se rencontrent. Oui. L'une d'elles a l'air bien fatiguée, les yeux tirés. La démarche lente. Sa copine, ne la voyant ainsi, lui dit:
Mon Dieu! Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tu as l'air fatigué.
C'est rien de grave. C'est qu'en ce moment, je bouquine un peu trop souvent le soir. Durant la dernière guerre, vers les années 1943, je crois, Gérard appelle son colonel Bailly.
Allô? Mon colonel Bailly? Allô?
Oui. Qui parle, là?
C'est Gérard.
Gérard qui?
Gérard Manvichard, vous ne me connaissez pas? Gérard Paradis, ça fait. À partir de 1951, c'est moi qui vais faire les troubadours si je me fais pas tuer.
Vous êtes complètement idiot, mon ami.
Un temps plein pour ça, ils vont m'engager.
En tout cas, je comprends rien à ce que vous me dites, là. Allez droit au but, là. Qu'est-ce que vous voulez, là? Ça va vous coûter cher de me réveiller comme ça en plein milieu de la nuit, vous. Allez, parlez, dites ce que vous voulez.
J'ai pas l'air de bonne humeur, là, vous. Même si je vous vois pas l'air, là, j'ai l'impression que vous devez pas être regardable à cette heure-là, là, vous. Là.
Soldat Paradis, vous allez vous souvenir de moi. Allez-vous me dire enfin ce que vous voulez?
Bien sûr, mon colonel, je suis à 5000 d'ici, là. J'ai fait 14 prisonniers.
Hein? Vous êtes pas sérieux?
Ouais.
Hein? 14 prisonniers? Oh, mais c'est magnifique! C'est magnifique, soldat Paradis, bravo! Amenez-les tous ici en vitesse!
Ben, je voudrais bien, mon colonel, mais ils veulent pas me laisser partir!
Un père angoissé attend nerveusement des nouvelles de son épouse qui est en train d'accoucher. Il se promène de long en large dans la salle d'attente. Et voilà que soudain, tout est terminé. Les infirmières, les gardes malades, sont surexcitées car elles voudraient toutes aller annoncer la bonne nouvelle au nouveau papa. Elles veulent surtout lui voir la tête. La garde en chef décide qu'elles iront toutes en délégation lui annoncer l'heureuse nouvelle. Elles entrent toutes dans la salle d'attente. Le père est sidéré en voyant toutes ces jeunes femmes au sourire provocateur. Qu'est-ce qui peut bien se passer, se dit-il? Enfin, la garde en chef se décide à parler.
Ça y est, monsieur, c'est arrivé.
Non.
Oui, c'est arrivé.
C'est vrai?
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, dites un chiffre au hasard, là, entre 5 et 9.
Alors, Marielle!
C'est
le rime, papa. Non, t'as pas
fort,
ta bataille.
Ben oui,
Haïtienne, tout ça, donc. Ben, t'es contente, t'en reviens de ta nouvelle place,
là-bas. Oh, certaine, Haïtienne. C'est tellement simple, là, comme travail. Toute la journée, là, j'ai juste à répondre. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Puis la nuit, c'est... Non, monsieur. Non, monsieur. Non, puis non, monsieur.
Alors, mon petit monsieur, vous êtes accusé d'avoir frappé cette dame alors que vous voyagiez à bord du même train. Vous avez besoin de me fournir une bonne excuse si vous ne voulez pas être condamné.
J'en ai une, ce vieux. Cette dame-là est venue s'asseoir près de moi dans le même compartiment. Au même moment, le percepteur des billets s'en venait un peu plus loin.
Alors la dame, elle a ouvert son grand sac, elle a sorti son sac à main, elle a fermé son grand sac, elle a ouvert son sac à main, elle a sorti de l'argent, elle a fermé son sac à main, elle a ouvert son grand sac, elle a déposé son sac à main dedans, puis elle a fermé son grand sac. Là, elle s'est aperçue que le percepteur était tourné de bord. Alors là, elle a ouvert son grand sac, elle a sorti son sac à main, elle a fermé son grand sac, elle a ouvert son sac à main, elle a déposé l'argent dedans, elle a fermé son sac à main, elle a ouvert son grand sac, elle a déposé son sac à main dedans, puis elle a fermé son grand sac. Juste à ce moment-là, le percepteur revenait. Elle a ouvert son grand sac, elle a sorti son sac à main, elle a fermé son grand sac, elle a ouvert son sac à main, elle a sorti l'argent, elle a fermé son sac à main, elle a ouvert.
Oh, l'amour du ciel, arrêtez-moi ça! C'est en train de me rendre fou, là.
Ah, ben, vous voyez, monsieur le juge, c'est en plein ça que m'est arrivé, moi.
Et si, madame, vous voulez divorcer de votre mari?
Ben, je vois pas vraiment pas comment je pourrais divorcer de quelqu'un d'autre. C'est avec qui je suis mariée, hein?
Répondez donc brièvement, madame, mais pas de commentaires, s'il vous plaît.
J'aimerais ça que ça se fasse vite, hein, bien vite.
Quelle raison avez-vous, madame? Ouais. Est-ce que votre mari vous maltraite?
Oh non, je dis. Mon mari, Jean, est très bon pour moi.
Est-ce que votre mari est tigrin?
Non, il ne prend jamais un coup.
Est-ce qu'il dépense son argent à jouer au cas?
Non, monsieur le juge, il me donne tout son argent, oui, Saint-Solène, tout.
Dans ce cas-là, madame, c'est sans doute l'infidélité qui est la cause de vos troubles.
Ça doit être ça, monsieur le juge. Ça se situe à peu près des alentours de là, tu sais. C'est le trouble de la fidélité qui est en cause. Voyez-vous, monsieur le juge, mon mari, là, il y a un de ses enfants qui n'est pas de lui.
Un policier vient d'arrêter une jeune femme très, très violente.
Eh bien, la jeune dame, hein, ce que je vois, on est très pressé.
Mon Dieu, monsieur le policier, allez pas croire que je me suis habituée, hein, et avoir su que vous étiez derrière moi. C'est plutôt moi qui vous
allez suivre. Ouais, on parlera de ça un autre jour, OK? Ouais.
Et le policier sort son stylo et son carnet de contravention. Comme il s'apprête à écrire, la jeune femme de sa voix la plus suave et douce.
Pas besoin de me faire un chèque. Vous me paierez après.
Ouais, mon père.
Tu vois pas, Gaston, que je suis en train de lire mon journal?
Ouais, c'est bien, mais moi, papa, je vous donne une mitraillette, moi.
Une mitraillette? Ouais. Sérieux, mon garçon?
Ouais. C'est une vraie mitraillette à voir ça.
Ah, ben ça, c'est le comble. Ouais. C'est le comble. Tu vois pas que tu t'es mis dans la tête que moi, je t'achèterais une vraie mitraillette.
Ouais, bon, sérieux, oui, fou, oui. Je veux une vraie mitraillette, papa.
Ça suffit comme ça, là, je vais me fâcher.
Ah, ça va rien, moi, je veux avoir une mitraillette.
Bon. Gaston cesse immédiatement de faire le petit garçon stupide comme tu es en ce moment, t'as compris?
Je veux une mitraillette, bon!
Gaston, pour la dernière fois!
Je veux une mitraillette!
Gaston, je te dis de cesser! Qui c'est qui commande ici?
C'est toi, pas, mais si j'avais une mitraillette,
oh. Un jour viendra! Oui, mesdames et messieurs, je vous le répète, il faut finir avec le capitalisme. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, je dis bien, l'exploitation de l'homme par l'homme.
Puis, le communisme, c'est quoi?
Le communisme, c'est le contraire. Oh.
J'ai hâte d'engraître de me trouver un emploi, moi.
Ma pauvre vieux va travailler à la mine. Ils ont besoin d'employés de ce temps-là.
Ah ouais, je connais rien là-dedans.
Pas d'importance. Voyons donc, Albert. Le gérant va te poser quelques questions. C'est pas difficile. Premièrement, il va te demander si tu as déjà travaillé dans une mine. Là, tu te diras oui.
Ouais.
Ensuite, il va te demander à quelle profondeur tu as déjà travaillé.
Ouais.
Tu diras 1000 ou 2000 pieds. Puis après ça... Oh, il va te poser des petites questions ben simples. Non, je te le dis, n'importe qui peut travailler là. Je vois pas pourquoi tu réussirais pas, toi.
Ah, c'est comme ça. Y aller.
Et notre mineur en herbe, si l'on peut dire, s'en alla trouver le gérant de la mine. Celui-ci lui dit...
Avez-vous déjà travaillé dans une mine?
Ah, bien sûr. Ah, depuis des années.
Good. À quelle profondeur?
À 3000 pieds.
Parfait. Des gars comme ça qu'il nous faut. Bon. Dites-moi, dans la mine, quelle sorte de lumière portez-vous sur votre casque?
Ah, je n'ai jamais apporté de lumière, moi j'ai toujours travaillé de jour, hein.
Le professeur Paradis a un petit conseil, je crois, à donner aux jeunes filles qui sont à l'écoute. Écoutez bien.
Oui, en effet.
Allez-y, cher professeur.
Mesdemoiselles, vous avez le choix. Ou bien vous restez vieille fille puis vous corraillez après un mari toute la journée. Ou bien vous vous mariez puis vous corraillez après le mari toute la nuit.
Écoute, mon mari, il est à peu près temps que tu te décides. Notre fils a maintenant 16 ans. Il faut lui expliquer les mystères de la vie. Fais quelque chose, mon mari. Parle-lui, je sais pas, moi, des oiseaux, des chiens, des chats, mais faut absolument le mettre au courant.
Oui, bien sûr, ma femme.
Non.
Et le père appela son fils pour lui dire...
Écoute, François, là.
Ouais.
Tu sais ce qu'on a fait tous les deux la semaine dernière avec les deux dames de la rue Saint-Quirion.
Ah, ouais, ouais.
Bon, ben, ta mère veut absolument que je te dise que les oiseaux, les chats et les chiens, ils font la même chose.
S'il vous plaît. Dans le métro, un homme dit à une femme...
Madame...
Oui?
Je vous cède la bain à ma place, ma bonne dame, mais elle est déjà occupée.
Continuez votre petit courrier, chère tante Estelle.
C'est-à-dire que j'ai une autre lettre. Hein? Elle me vient d'un jeune homme qui me dit souffrir d'un désir constant et inguérissable de tout briser, de blesser ceux qu'il aime, et il tuerait même, vous savez, ça, il tuerait.
Oh, alors, que lui conseillez-vous?
Savez-vous, Jean-Maurice, c'est un anglais, fait que...
Oh, c'est pas grave, ça. Répondez-lui en anglais.
Attendez un peu. Jeune homme, drop dead.
Entrons l'espace de quelques secondes dans la maison de Jean-Jules et Rita. Au moment où Jean-Jules s'apprête à partir... C'était samedi dernier, et Jean-Jules s'en allait voir jouer le Canadien.
Jean-Jules, oui, oui.
Je m'en vais, Alta. J'espère que tu vas passer une bonne soirée.
Non, c'est que tu t'en vas, toi, Jean-Jules, là.
Mais au forum?
Ben, good, hey, rapporte-moi donc des cubes de glace, on se voit demain, OK?
La prochaine lettre du courrier est adressée à Gérard. Il semble que la dame en question ait plus confiance en la réponse de Gérard qu'en la réponse de Tante Estelle. Alors, Tante Estelle va lire la lettre, la voici.
Cher Monsieur Paradis, qu'est-ce que vous pensez d'un homme qui fait l'amour à sa femme tout en regardant la télévision, hein? Mon mari, il est comme ça. Jamais plus d'amour dans la chambre à coucher, toujours sur le divan dans le salon afin de pouvoir regarder la télévision en même temps. Puis c'est toujours au moment où je m'en attends le moins, ce que je n'apprécie guère, sans doute. Il a peur de manquer quelque chose de bon à la télévision, ce qui ruine notre vie sexuelle. Pourriez-vous me dire, M. Paradis, comment je peux ramener mon mari dans la chambre à coucher? Signé, pas contente pantoute, Magdalena.
Cher pas contente pantoute, Magdalena, c'est Vincent. Vous n'avez même pas à changer de canal. Déménagez tout simplement la télévision dans la chambre à coucher.
Sur un bateau lors d'une croisière dans les Antilles, la très jolie jeune fille dit à un garçon de cabine...
J'aimerais voir le capitaine tout de suite.
Oh, désolé, madame, mais le capitaine est présentement seul dans sa cabine.
Puis... Je suis en voyage de plaisir, non, hein? Le monsieur arrive au garage et dit à l'employé...
Combien ça me coûterait pour faire réparer ma voiture?
C'est quelle heure, votre voiture, M. Bailly?
Ben, je sais pas.
Ça va coûter 129$ avec la taxe.
C'est ça? La jeune dame se présente à la banque... Et au caissier, elle dit...
Pouvez-vous changer ça, monsieur?
Ce moment, madame, oui. Ah, oui. Ce sont des livres, ça.
Hein? Oui, des livres.
Oui, des livres. Oui, la monnaie de la nationalité, c'est des
ça,
livres.
C'est bien ça. Et changez-moi donc ça pour de l'argent canadien, s'il vous plaît.
Certainement, madame. Merci, madame.
Hein?
Une pièce 47?
Madame, une pièce 47?
Vous voulez dire toutes ces lire-là, ça vaut rien qu'une pièce 47 en argent canadien?
Ben oui, madame, ben oui.
Oh, ben ça, c'est le con, ben. Moi qui étais assez dingue pour lui servir le petit déjeuner en plus de tout ça. Le père La Tendresse est sur le point d'entreprendre son dernier voyage. Le dernier voyage, pour faire. Le bon curé est à son chevet. Sur une petite table près du lit, il y a une bouteille de rhum presque vide. Le curé, montrant la bouteille, dit au père La Tendresse.
Mon pauvre monsieur La Tendresse,
est-ce
là votre seule consolation pour traverser cette pénible agonie?
Non, monsieur le curé. J'en ai une autre bouteille de café sur mon oreiller.
Que voulez-vous bien dire, monsieur, ce que vous essayez de faire avec cet animal-là?
Quoi? C'est un hippopotame.
Combien ça? Qu'est-ce que vous voulez en faire de votre hippopotame?
De rentrer chez nous, de cette affaire.
Vous n'êtes pas sérieux, là, de rentrer chez vous?
Ouais, tout ça, c'est sérieux. Donnez-moi un coup de main, là. On va rentrer dans mon salon. Là.
Je peux bien essayer.
Nos deux hommes finissent par rentrer l'hippopotame dans la maison. C'est à ce moment-là que des questions sont posées.
Écoutez donc, monsieur. Maintenant que cet animal-là est dans votre salon, est-ce que je peux connaître ce qui vous pousse à faire ça?
Ah, ça, c'est à cause de ma femme.
Ah, vous voulez lui faire plaisir?
Ben, je dirais pas ça. Non, c'est plutôt pour me faire plaisir, à moi. Pour elle, là, ça va être une vraie surprise, hein?
Ouais.
Écoutez, mon cher monsieur, c'est pas drôle, ça. Ça fait 15 ans que je suis marié, moi, avec une femme qui sait tout. Quelle que soit la nouvelle que je pense lui apprendre, elle me répond toujours. Ben oui, c'est bien. Je peux pas savoir à quel point ça devient exaspérant de toujours se faire répondre. Mais oui, c'est bien. Alors, à toi, là, hein? Je vais être en train de lire mon journal. Puis là, ma femme va arriver toute excitée, puis elle va me dire toute tremblante, « Ah, j'ai un hippopotame dans le salon! » Alors moi, tranquillement, je vais lui dire, « Ben oui, je sais bien!
» Pour une fois!
Chantier olympique, un monsieur dit à l'autre.
Est-ce que vous cherchez du travail, mon ami? Avez-vous votre carte d'identité, vous?
Non, pas encore, non. Mais je cherche du travail. Du travail, vous voulez savoir si je cherche du travail?
Oui.
Oh, pas nécessairement. J'aimerais bien savoir un job, mais non. Alors, vous dites, j'ai appris une chose extraordinaire hier. J'ai su pourquoi Hitler n'avait pas pu traverser la Manche pour aller vaincre les Anglais en 1940.
Oui, Gérard, il y a pas mal d'opinions démises à ce sujet-là.
Oui, mais moi, j'ai la bonne.
Ah, toi, t'as la bonne.
Ah, c'est grâce au service de contre-espionnage anglais.
Oh, ça me passionne, ces choses-là.
Alors, suivez-moi bien. Okay. Les Allemands, en 1940, avaient décidé de traverser la Manche. Et pour ce faire, Hitler avait ordonné qu'on assèche la Manche.
Non, pas sérieux,
mais Hitler, il était lui.
Ah.
Alors, il ordonna à tous ses soldats de se placer à une verge, l'un derrière l'autre.
Ouais.
Et au commandement des officiers, «Ein, zwei, drei!» Chaque soldat devait avaler trois gorgées d'eau de la mer.
Moi qui mange pas ça.
Alors, au bout d'une journée, je vous assure que les Allemands y avaient bu pas mal d'eau. Vous priez de me croire.
Qu'est-ce que les Anglais faisaient pendant ce temps-là, eux autres?
Voilà la suite. Pourquoi les Anglais? Grâce au contre-espionnage anglais, sur toute la côte anglaise, au même moment, on entendait ce commandement donné aux membres de l'armée britannique. One, two, three, pipi! One, two, three, pipi!
Soldat à la traverse!
Oui, mon capitaine de la tourmente!
Soldat à la traverse, je voudrais vous poser une devinette.
Posez, mon capitaine, naturellement, posez.
C'est le fils de ma mère. Et ce n'est pas mon frère. Qui est-ce?
Mon capitaine, naturellement, c'est pas facile, hein? Non, je devine pas, mon capitaine, naturellement.
Ben, c'est moi.
Eh bien, oui. Elle est bien bonne, mon capitaine, le tourment. Elle est bien bonne. Tu l'as demandé au soldat Landouille. Landouille, viens ici que je te pose une devinette.
Ah, je suis champion dans les devinettes.
Oui, mais on va bien voir. Écoute bien. C'est le fils de ma mère et ce n'est pas mon frère. Qui est-ce? Hein?
Hey, il dit rien, hein? Il cherche. Eh bien, tu penses que c'est moi, hein? Eh bien non, c'est le capitaine.
Le gangster, poursuivi par la police de New York, tombe dans le vide à partir du 50e étage de l'Empire State Building. En passant devant les fenêtres des bureaux, il crie à qui veut l'entendre.
Hé, hey, arrêtez-moi, c'est un bandit!
Hé, hey, dis-moi donc, Anselme, combien peux-tu manger de pommes à jeun?
Bonjour, M. Veilly. J'en ai assez ça des pommes. Je t'en mangé quatre, mais des pommes à jeun.
Ben non, Anselme. Quand t'en as mangé une, t'es plus à jeun.
Au revoir. Hey, hey, bonne salle, M. Veilly. Hey, Mme Estelle.
Oui, Mme
Estelle.
Oui.
Combien c'est que vous pouvez manger de pommes à jeun, vous?
Ben, attendez, là. J'en mangé sûrement trois, M. Anselme. Oui, trois.
Ah, vous êtes donc pas fin, Mme Estelle. Vous aviez du cap, là, je vous en aurais raconté une bonne.
monsieur, il y a, comme on dit, son voyage. Promène en traînant une ficelle derrière lui. Il s'arrête, puis il y a un policier qui le regarde étonné.
Hey, j'ai...
Oui, oui.
J'ai appuyé.
Oui.
Tiens, je n'ai pas rencontré, par hasard, vous. Je n'ai pas rencontré l'homme invisible, vous.
Ah, ah ben, l'homme invisible.
Ah, ouais, je n'ai pas
ben
rencontré.
Non, mon ami, non. Non, pas aujourd'hui.
Ah, ah, c'est pas important. Si vous le voyez, dis que t'inquiète pas, j'ai retrouvé son chien, voilà.
Un pauvre bougre vient d'arriver à l'asile. À peine entré, regarde partout, il s'écrie.
Eh, hey, bon, d'où j'ai lu, il y a un monde.
Ah oui, c'est.
Viens ici. C'est ta voisine, là.
Ouais.
Comment ça se fait, Gérard, que ta voisine a trois enfants de moins de 5 ans, alors que son mari, tu sais, moi aussi, son mari l'a quitté depuis 10 ans?
Il est revenu 3 fois pour s'excuser.
Oh!
La femme arrive en trombe chez le psychiatre.
Docteur, aidez-moi vite, deviens folle. Mais
qu'est-ce qu'il y a, donc?
Ben, regardez donc, une carotte dans les oreilles.
Ben
donc,
oui, comment ça se fait que vous ayez une carotte dans l'oreille? Je comprends pas ça.
Non, mais non plus, je comprends pas ça, j'avais sa main d'irradie.
On le gérant de banque dit à son client.
Mais non. Non, non, monsieur le délit, je regrette. Non, je peux absolument pas, c'est pas possible. Mais non, M. Le Gris, je peux absolument pas prendre votre femme en garantie collatérale, non.
Deux amis se rencontrent, l'un des deux est un écrivain.
Hey, dis donc, Jean-Claude, paraît-il que t'as fait un argent fou avec ton dernier livre intitulé « L'Ontario et la province de rêve ».
Ben, je dois avouer, Ronald, que le livre s'est vendu comme des petits pains chauds. Hein.
Qu'est-ce que t'as fait avec tout cet argent-là?
Je suis acheté une maison au Québec.
Le comble de la concentration, Gérard, c'est quoi?
La concentration?
Oui, oui, mais tu sais, le comble de la concentration.
C'est d'être capable de regarder une fille topless en plein dans les yeux.
Charmante hospitalité, et du fond du cœur, ils vous disent
Soyez heureux!
À la technique, Bernard Perron. Et Joyeux Troubadour, une production TVRP mise en onde par Pauline Goyette-Whiting, vous dites au revoir. Et d'ici notre prochaine visite, conservez votre sourire et soyez toujours de bon de bonne humeur!
Radio-Canada.